En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Bonjour, pourquoi les parfums, les vins, la nourriture en général sont-ils porteurs d'une odeur? Eh bien parce que les arômes sont hydrophobes. En effet, ils ont besoin de lipides ou d'alcool pour pouvoir se rattacher aux produits. Oui, mais alors comment notre cerveau arrive-t-il à faire la différence entre une odeur et une autre? Quel est le mécanisme qui s'opère entre le moment où nous inspirons une fragrance et le moment où elle éveille en nous des souvenirs? Ces questions furent le thème de l'une des séances de l'Académie des sciences que nous allons vous diffuser dans quelques instants. Il faut dire que l'olfaction est mal connue des neurobiologistes, ils s'y intéressent depuis une vingtaine d'années seulement. Ce qu'ils savent, chaque être humain dispose d'environ 350 récepteurs qui vont lui permettre de reconnaître des millions d'odeurs. Je vous propose d'écouter sans plus tarder le professeur Jean-Didier Vincent, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de médecine.
Nous allons passer sur ce sujet qui nous réunit, qui est donc l'olfaction, je devrais dire l'olfaction et le goût, parce que les deux sont indissociables. On pourrait parler plutôt d'un sens oral, qui est un sens qui englobe non seulement l'olfaction et ce qu'on appelle spécifiquement le goût, mais aussi le toucher, ce fameux toucher de la langue, qui pour nous dégustateurs de vin est si important, la sensibilité thermique. La bouche, comme l'a bien montré Bria Savarin, c'est le carrefour des sensations. Tout se passe dans cette bouche. Les psychanalystes se sont rués sur l'oralité, mais nous savons tous que l'essentiel de notre présence au monde se joue dans la bouche. Alors longtemps, le sens olfactif, comme le sens gustatif, mais surtout le sens olfactif, qui est le plus représentatif, a été oublié par les chercheurs. Immanuel Kant, qui trouvait que la sensorialité, déjà, c'était par rapport à l'intellect pur, quelque chose d'assez trivial, considérait l'olfaction comme la lie de la sensorialité. Un sens qui est resté longtemps livré à l'industrie des parfumeurs, à leur activité plus ou moins secrète, au domaine du luxe, sinon de la luxure. Ce sens a retrouvé, et de la littérature, ce sens a retrouvé une place majeure dans la neurobiologie moderne, à peine depuis quelques décennies, à peine deux décennies, grâce à quelques avancées récentes spectaculaires, qui fait qu'aujourd'hui, au dépens de l'audition et de la vision, sens noble pour l'humain, paraît-il, avait régné sur la neurobiologie, l'olfaction est aujourd'hui, je dirais, et les études de l'olfaction sont devenues une discipline de pointe. Alors, c'est un sens qui est loin d'être simple. C'est un sens extrêmement compliqué, car, en fin de compte, il possède, comme tous les sens, mais peut-être avec plus de complexité encore et plus de mystère que l'audition et l'olfaction, que l'audition, la vision ou le tact, différents niveaux d'organisation. Alors vous avez tout à fait à l'étage supérieur un petit neurone qu'on appelle les neurones sensoriels, qui sont donc les neurones récepteurs, qu'il ne faut pas confondre avec les molécules que porte ce neurone sensoriel, qui sont des récepteurs, ce sont donc des ligands pour les molécules olfactives. Alors nous verrons, et M. Pernollet tout à l'heure nous expliquera ça dans le détail, qu'il y a à peu près 350 récepteurs différents, 350 récepteurs différents qui doivent reconnaître quelque chose comme à peu près 5 millions de molécules odorantes, c'est-à-dire des molécules qui peuvent être transmises par l'air ambiant et qui vont reconnaître quelques ligands, quelques récepteurs plus ou moins spécifiques. Les uns pouvant reconnaître presque tous les récepteurs, c'est le cas par exemple de l'acétate d'éthylamine qui donne le goût de banane et qui est le récepteur bien connu qu'on nous vante tous les ans lors du Beaujolais nouveau, et puis d'autres qui sont très spécifiques d'un type de récepteur. Puis vous avez donc ce premier neurone qui va se terminer dans un étage qui est dans une structure qui est une partie du système nerveux central, qui est une expansion du système nerveux central. C'est très important, qu'on appelle le bulbe olfactif. C'est deux espèces de petites cornes qui sont sous le bas du cerveau antérieur et qui pointent vers l'avant et qui vont recevoir ici dans des structures très identifiables microscopiquement sans aucune préparation qu'on appelle les glomérules. Alors cet étage glomérulaire est le premier étage d'intégration puisque tous les axones des neurones sensoriels vont converger vers ces fameux glomérules où se rassemblent les terminaisons, donc des cellules sensorielles proprement dites. Et il y a comme ça à peu près 2000 glomérules qui sont en paire sur chaque bulbe olfactif. Bon, alors il y a quelque chose que je signale très vite, on y reviendra plus en détail, c'est que pour un récepteur donné, c'est un seul glomérule qui est en cause. Autrement dit, où qu'il soit placé dans la muqueuse olfactive, les axones qui viennent d'un type de récepteur donné vont converger sur le même glomérule. Premier étage d'intégration. Deuxième étage, c'est la cellule mitrale. Cette cellule mitrale, c'est une grosse cellule qui occupe le centre, la couche des cellules mitrales du bulbe olfactif, qui va donc recevoir un dendrite primaire qui vient donc ici, un dendrite primaire qui vient du glomérule et des dendrites latéraux, dendrites secondaires, et va ensuite donner des voies afférentes qui vont vers le système nerveux central et directement vers le cortex. Alors, première singularité, le système olfactif passe par deux neurones, alors que les autres systèmes sensoriels nécessitent, pour rentrer dans le cerveau, trois neurones. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'entrée, je dirais, accélérée dans le cerveau au niveau du système olfactif. Et puis ensuite, nous avons l'élaboration d'un message électrique qui va être organisé à l'étage de la cellule mitrale avec notamment des phénomènes de synchronisation qui vont dessiner des réseaux, qui vont dessiner des sortes d'images olfactives qui vont ensuite, par des phénomènes de synchronisation des activités entre les différentes cellules voisines, grâce à des phénomènes d'inhibition latérale, donner naissance à des assemblées de neurones qui vont décharger et vont ensuite aller vers ce fameux cerveau olfactif qui est assez développé, qui va donner la perception olfactive. Vous voyez que on a simplifié ici. Je ne suis pas sûr que, en ce qui concerne l'iconographie que je représente, qui est due à mon avis Pierre-Marie Liedo, les souris rêvent véritablement de bananes. De bananes probablement pas, mais au moins c'est symbolique. Disons que la banane est le symbole de l'olfaction pour les neurobiologistes. Alors, voilà un neurone sensoriel. Un neurone sensoriel, vous le voyez, il a des dendrites considérables, formant des arborisations qui vont se terminer dans la muqueuse olfactive, avec entouré de mucus, qui va fonctionner un peu comme un chromatographe, et les substances qui sont amenées par l'air dans les turbines olfactives, dans le nez, vont venir ici reconnaître leurs récepteurs spécifiques sur ces dendrites et ensuite ils vont activer des systèmes de transduction et se transformer en un signal électrique qui va passer dans l'axone. Très vite, la suite pour dire que le système olfactif, pourquoi considère-t-on que c'est un système secondaire? Il est vrai que si on regarde ici une représentation phylogénétique, vous avez quelques exemples paradigmatiques de l'évolution des vertébrés, la fameuse lamproie, la torpille, l'anguille qui est un téléostéen, les amphibiens, vous voyez que si vous regardez la poule, très à la mode aujourd'hui, le lapin, le singe et l'homme finalement, vous voyez que le cerveau tient de plus en plus de place, le cerveau général, notamment le cerveau cognitif, tient de plus en plus de place par rapport au système olfactif. Vous voyez que la lamproie, presque la moitié de son cerveau est dévolue à la fonction chimiosensible, sinon olfactive. Vous voyez, c'est la même chose chez les poissons. Vous voyez, chez la tortue, chez la souris, ça commence à se réduire. Et chez le lapin, qui est un macrosmatique. Et vous voyez que chez l'homme, le système olfactif, disons récepteur périphérique bulbe olfactif, c'est une toute petite chose. Eh bien, c'est une totale illusion de penser ça. Nous ne sommes pas des microsmates. Nous sommes au contraire des macrosmates. Si on veut bien considérer la fonction olfactive chez l'homme, on va se rendre compte de son importance. D'abord, parce que l'homme, et c'est très important pour le vigneron bordelais qui vous parle, dispose de deux systèmes d'olfaction. D'abord, il sent par le bout de son nez, c'est ce qu'on appelle l'ortho-olfaction, l'air inspiré rentre dans les narines, dans les cornets, et va passer sur la muqueuse olfactive où il va se confronter aux récepteurs olfactifs qui sont ces cellules, qui sont des molécules, des récepteurs à sept domaines membranaires, on vous en parlera en détail, qui sont dans la membrane et qui vont reconnaître les ligands, les molécules odorantes qui sont dissoutes dans le mucus et qui font diffuser, selon les principes de la chromatographie d'ailleurs, sur toute la surface de cette muqueuse olfactive. Et l'homme bénéficie d'une deuxième olfaction qu'on appelle la rétro-olfaction. Par cette cheminée, comme le qualifiait Brillat Savarin, les odeurs qui viennent de ce que nous mangeons vont être distillées en quelque sorte dans le nez, et cette rétro-olfaction fait que vous allez respirer et sentir une deuxième fois ce qu'après avoir senti en l'approchant, vous avez senti en le mangeant. Et cette rétro-olfaction est une caractéristique de l'anatomie des humains. Alors, voyez l'univers, essayez sur ce schéma de comparer, c'est très relatif, l'univers olfactif de la souris et l'univers olfactif de l'homme. Évidemment, vous voyez que c'est ce premier cercle, l'univers olfactif de la souris concerne à la fois l'état hormonal de l'accouplement, alors que pour la plupart d'entre nous, la fonction olfactive, enfin c'est pas une règle, joue quand même dans l'accouplement un rôle secondaire, dans l'allaitement un rôle secondaire, alors que chez la souris ça joue un rôle essentiel. L'identité, les souris ne se connaissent pratiquement que par les odeurs qu'elles dégagent dans les sociétés de souris, un mâle étranger, les congénères sont reconnus essentiellement par leur odeur. Si vous présentez un vieux rat, un jeune rat, hein, occasion d'une visite académique par exemple, eh bien le vieux rat respire la muqueuse génitale du jeune rat et en garde la mémoire. Donc nous avons une identité, quand nous sommes des rats, une identité olfactive. La hiérarchie est essentiellement gouvernée par des signaux olfactifs, le territoire, etc. On connaît les rongeurs qui marquent leur territoire, les chiens, etc. C'est pas le cas chez l'homme, c'est une habitude qui s'est perdue chez l'homme tout au moins, de marquer son territoire avec ses urines. Par contre, toute cette sphère sociale, sphère florale, sphère des aliments, sphère de la survie un peu moins, c'est l'olfaction. Quel animal peut se targuer de pouvoir différencier toutes ces fleurs, tous ces parfums qui nous entourent? Quel animal peut être capable? Nous avons un programme actuellement avec Pierre-Marie Liédo pour étudier le goût du Sauvignon, qui est formé de 10 molécules, et on le teste d'abord chez la souris. Je dois dire que les réactions qu'on a en IRM chez l'humain sont incomparablement plus complexes que celles qu'on a chez la souris avec les 10 composants olfactifs du Sauvignon qui la laisse finalement assez indifférente. Voyez donc le rôle de l'odeur, des plantes, des fruits, etc. Je ne détaillerai pas. Nous sommes donc des animaux macrosomatiques finalement, beaucoup plus que nous le croyons. Je vous signale, titre tout à fait anecdotique, que quand un nouveau-né vient au monde, quelle est sa première impression du monde? Que fait un nouveau-né quand il arrive? Il respire avant même de crier. Une grande inspiration qui va mettre en place le système respiratoire. Et cette inspiration, elle est chargée d'odeurs. Donc les premières sensations, parce que le premier système olfactif, le premier système sensoriel qui est myélinisé et qui fonctionne chez le nouveau-né humain, c'est le système olfactif. Nous naissons au monde en sentant le monde. Je vois pour rien que du point de vue sémantique, sentiment, sentir, le sens, tout ça, ça vient de la même racine. Ici, je vous montre très rapidement la différence essentielle qu'il y a entre le sens olfactif et les autres sens. Les autres sens ont une localisation spatiale. Quand vous touchez quelque chose, vous avez un rapport avec la matérialité de la chose. Vous pouvez la localiser. Pour le goût, vous voyez que les différentes saveurs sont localisées sur la langue. Il y a des endroits spécialisés dans l'amer, des endroits spécialisés dans le sucré, etc. Pour la vision, La rétine est évidemment un endroit tout à fait spécialisé, puisqu'il y a un reflet de là où sont les objets sur la rétine, une transmission, et en même temps que les couleurs sont codées par des cones qui sont différents pour trois couleurs, etc. Je dirais la même chose pour le son, où le son, c'est un ensemble de fréquences, et il y a une topographie des fréquences dans le système cochléaire. L'olfaction, c'est tout à fait différent. D'où vient une odeur ? De l'éther, de l'espace. Mais en général, elle peut venir de proximité ou de plus loin. On ne peut pas localiser l'odeur. Elle arrive, elle se répand sur la muqueuse olfactive, et il n'y a aucune topographie, il n'y a aucune représentation spatiale des odeurs. Il n'y a pas de somatotopie, de stéréotypie de l'espace dans la muqueuse olfactive. Et en plus, ce système olfactif, vous le voyez, il est au contact du monde, c'est-à-dire qu'il est au contact d'éléments toxiques. Donc il a une propriété qui est tout à fait exceptionnelle, c'est que ces cellules olfactives, ces cellules sensorielles, elles ne durent qu'à peu près 2 mois, et elles ont 2 mois de vie, et elles sont remplacées par des cellules qui sont des cellules souches, des cellules indifférenciées, qui vont migrer à la place de la cellule qui va mourir, et qui va retrouver les mêmes contacts, là il y a là un secret du développement qui n'est pas encore complètement perçu, pour aller reconnaître le glomérule qui était occupé précédemment par une cellule sensorielle qui est morte. Voici donc cette absence de dimension spatiale sur laquelle j'insiste. J'insiste sur ce côté de premier niveau d'intégration spatiale avec une organisation spatiale des odeurs, ou tout au moins au niveau des glomérules, et ensuite vous verrez qu'il y a ici donc une organisation locale qui se fait par des dendrites latéraux qui vont en quelque sorte organiser le message. Ici, vous avez déjà des images olfactives, ou tout au moins des représentations olfactives, des cartes olfactives, et ici, vous avez des représentations déjà. On peut dire qu'au niveau du bulbe, déjà, comme un peu sur une rétine, vous avez des images olfactives, comme il y a des images visuelles qui se forment et qui vont ensuite être transmises donc au cerveau. Alors, je termine par une dernière propriété de ce bulbe olfactif, qui en fait d'ailleurs toute l'actualité, c'est le fait que non seulement les neurones sensoriels se reproduisent, se remplacent, mais il y a tout ce qui est interneurone que vous avez vu au niveau de l'étage des cellules pyramidales qui permettent de dessiner des sortes d'engrammes, de représentations spatiales des odeurs. Il y a des interneurones. C'est les interneurones GABAergiques qui vont en quelque sorte dessiner la forme de cette première intégration d'une odeur. Eh bien, ceci se fait avec des cellules GABAergiques, comme toujours l'inhibition. Ces cellules GABAergiques, elles viennent du cerveau, elles sont renouvelées en permanence. Il y a donc une propriété extraordinaire sur cette région du cerveau, dont vous parlera Pierre-Marie Liedo, où il y a un flux migratoire qui se fait sur des molécules d'adhésion qu'on appelle les NCAM. Et vous voyez ici, visualisé par fluorescence, des neurones néoformés qui vont progressivement acquérir leurs propriétés de neurones, qui vont prendre un virage grâce à des molécules qui leur donnent une nouvelle orientation et devenir finalement des neurones GABAergiques qui vont donc sécréter du GABA avec les propriétés d'un interneurone, c'est-à-dire des potentiels d'action, etc., qui vont jouer leur rôle de neurone. Vous voyez donc que ce cerveau, il est renouvelé au niveau des cellules sensorielles, ce cerveau olfactif, et il est renouvelé au niveau des interneurones. C'est une propriété qu'on retrouve aussi dans le cerveau au niveau de la région d'une partie du rhinencéphale, ce cerveau olfactif archaïque qu'on appelle le gyrus cingulé. Et hippocampique. Voilà, si vous voulez, très brièvement, ce que vous allez entendre dans le détail. Donc, vous voyez, alors, bon, je vous avais parlé de l'oral sens, on vous parlera aussi du cerveau olfactif quand il fonctionne. Vous voyez que c'est des aires qui sont situées à l'avant du cerveau qui vont intégrer le message odorant dans ce cortex préfrontal. On fera la différence, on le verra plus tard, entre des odeurs agréables et des odeurs désagréables qui vont pas se localiser au même endroit. On verra que les images qui sont stockées dans la mémoire olfactive ne se font pas au même endroit. Et puis, nous verrons ici les différentes régions du cerveau qui sont impliquées justement dans l'intégration de ce sens olfactif qui, je le signale, c'est quelque chose de très important sur lequel on reviendra, est un sens qui n'est pas sémantisé, ce qui oblige les dégustateurs et les gens qui parlent de l'olfaction à faire des métaphores. On vous parle du sous-bois, on vous parle de parfum de fruits mûrs, on parle par métaphore, parce qu'à la différence de la vision, vous avez la couleur, vous avez la forme, c'est pointu, c'est carré, etc. Vous n'avez pas ça pour le sens odorant. Voilà, je termine parce que c'est quand même ma seconde passion après la science, c'est quand même la dégustation. Voilà un monsieur qui fait une ortho-olfaction, il aspire, en même temps il va mettre sa vue en action. Il va faire tourner, vous voyez la glycérine, là, ces corps gras qui coulent le long du verre, hein, qui vont donner le moelleux au toucher de ce vin, qui est un Bordeaux, je m'empresse de vous le dire. Ça, c'est une expérience qu'avait fait mes élèves Brochet, qui avait donné à des gens, à l'aveugle, si je puis dire, à goûter du vin blanc et du vin rouge, et ils n'avaient pas fait la différence. Donc, c'est vrai que la vue est très importante, même pour l'odeur. Donc, vous voyez ce que je vous disais, qu'il n'y a pas de véritable lexique pour les odeurs. Il y en a, par contre, pour le goût, là, où il y a 5 saveurs. Tout ça, c'est pour terminer sur la dégustation du vin. Vous n'êtes plus à jeun, vous avez mangé correctement à midi, donc vous n'êtes pas frustré. Et vous êtes dans les conditions exemplaires pour écouter, donc, M. Pernollet, qui va nous parler des molécules et qui va enfin faire la science pour laquelle vous êtes là. Merci.
On marque une courte pause avant de retrouver Pierre-Marie Lédeau, directeur du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur à Paris. À notre séance de l'Académie des sciences sur le thème de l'olfaction et du goût. On retrouve tout de suite Pierre-Marie Lédeau, directeur du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur de Paris. Le scientifique répond à la question suivante. Comment le système olfactif humain peut-il avoir une mémoire des odeurs?
Vous savez tous que les organes sensoriels sont éminemment plastiques chez l'adulte, et cette plasticité, elle prend place du gène jusqu'à la cellule. Or, la plasticité dont j'aimerais aujourd'hui vous exposer quelques particularités concerne le remplacement des neurones dans le système olfactif. Et nous verrons ensemble les particularités que cela confère au système olfactif de pouvoir intégrer des neurones que je qualifierais de juvéniles dans un cerveau adulte. Alors j'ai pris cette première diapositive en fait pour rappeler que la première société, civilisation à maîtriser les odeurs comme on maîtrise le feu, bien ce sont les Égyptiens. Et juste pour vous rappeler que le terme de parfum vient de perfumar, puisqu'il s'agissait de contacter l'au-delà avec les odeurs que l'on faisait brûler, les encens, etc. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment tellement l'anthropologie, mais c'est surtout comment ce système olfactif peut apprendre des odeurs, peut répondre aux sollicitations de l'environnement. Alors, je vous ai parlé du remplacement des neurones dans un cerveau adulte. A priori, ceci paraît très intriguant, puisque ça soulève de nombreuses questions, et notamment, comment pouvons-nous percevoir, discriminer, mémoriser si précisément des odeurs lorsque, en fait, les neurones sont appelés à être remplacés. C'est un peu comment savoir si un mur blanc peut rester blanc si tous les jours on vient et on remplace une brique par une nouvelle brique qui n'a pas été encore peinte. Donc, nous allons voir ensemble, les conséquences fonctionnelles de cette plasticité au niveau du premier relais de l'information. Jean-Didier Vincent vous a présenté cette structure. Il s'agit du bulbe olfactif. Et nous allons voir plus précisément à quoi sert cette neurogénèse en termes de traitement de l'information et les avantages que cela confère pour l'individu. Alors, pour aborder cette plasticité du système olfactif, nous allons voir trois points ensemble. Le premier, comment le système olfactif et plus particulièrement le bulbe olfactif traite l'information. Il est important de comprendre les règles selon lesquelles l'information olfactive est traitée par le cerveau olfactif de façon à envisager quelles peuvent être la fonctionnalité de cette neurogénèse. Donc dans un premier temps, nous verrons les règles qui régissent le traitement de l'information dans le premier relais central. Nous verrons ensuite, cette régulation épigénétique, selon laquelle l'environnement viendra façonner cette plasticité, notamment la neurogénèse. Et enfin, nous verrons quelles conséquences fonctionnelles cela apporte pour l'individu d'incorporer plus ou moins de nouveaux neurones dans le cerveau adulte. Donc, trois objectifs. Le premier, le système olfactif. Alors, Le modèle est en fait le système olfactif du rongeur. Ici, vous avez l'organe sensoriel, l'épithélium olfactif, et le premier relais que voici, dont cette forme a permis de qualifier ces structures de bulbe olfactif. Alors, en gros plan, donc, nous voyons l'organe sensoriel et le bulbe olfactif. Ce qu'il est important à noter, ce que Jean-Didier a fait lors de son introduction, c'est de dire que ces deux structures sont éminemment plastiques puisqu'elles sont capables de produire des nouveaux neurones, et ceci quel que soit l'âge du sujet. La grande différence tient en fait à la nature des cellules souches, ou en tout cas à la localisation de ces cellules souches, puisque pour l'organe sensoriel, les cellules souches neurales sont présentes dans cet organe, alors que pour le bulbe olfactif, les cellules souches sont présentes au cœur du cerveau, au bord des ventricules latéraux. Donc vous voyez déjà que pour la neurogénèse du bulbe olfactif, les nouveaux neurones devront non seulement être produits dans cette zone, mais être acheminés et être intégrés à plusieurs millimètres de distance. Et donc là, vous avez tout lieu pour une épigénèse, parce que ces nouveaux neurones qui vont naître dans cette structure profonde du cerveau vont pouvoir migrer et en fait, sans sentir, ou c'est de la méta-olfaction, de l'olfaction dans l'olfaction, puisque ces nouveaux neurones vont sentir le niveau d'activité dans lequel ils sont censés s'intégrer, le niveau d'activité du réseau dans lequel ils sont censés s'intégrer. Donc nous verrons les conséquences importantes que cela confère en termes de plasticité. Alors, on l'a déjà dit, l'épithélium olfactif présente la capacité à se renouveler. Les cellules souches, comme je l'ai dit, sont présentes dans l'organe sensoriel. Il s'agit de cellules que l'on appelle des cellules basales. Et on a dit que la demi-vie de ces neurones est d'environ 2 mois. Donc tous les 2 mois, un neurone sensoriel est remplacé à partir d'une cellule souche. Ici, la fonctionnalité de cette neurogénèse peut être facilement devinée. En effet, il s'agit de remplacer des neurones qui vont être agressés par le milieu extérieur, virus, bactéries, métaux lourds, etc. Par contre, le second niveau de neurogénèse qui concerne les bulbes olfactifs, voici donc ici la circuiterie du bulbe olfactif, concerne plus précisément le remplacement de tous les interneurones dans cette structure. Et la raison d'être de cette neurogénèse est bien plus difficile à entrevoir, puisque là, il s'agit de remplacer tous les interneurones qui vont permettre aux cellules relais, c'est-à-dire les cellules qui reçoivent l'information sensorielle et qui transmettent cette information au cortex olfactif. Eh bien, ces interneurones qui mettent les neurones relais ensemble vont être assujettis à un renouvellement permanent, et de nouveau, quel que soit l'âge de l'individu. Alors, pour comprendre la fonctionnalité ou tout au moins les conséquences fonctionnelles de cette neurogénèse, bien, nous avons d'abord pensé qu'il fallait plutôt comprendre comment ce premier relais traitait l'information. Il a déjà été dit plusieurs fois, l'information sensorielle est détectée par les cellules sensorielles qui vont projeter au travers d'un axone dans le bulbe olfactif. Donc nous sommes ici maintenant au niveau central. Et le premier codage qui va apparaître est un codage spatial, puisque tout neurone sensoriel exprimant le même récepteur va converger dans une unité que l'on peut qualifier d'unité morphologique ou fonctionnelle. Donc ceci est la base d'un codage spatial. Comme il a déjà été dit plusieurs fois, il s'agit ici de créer des images olfactives dans le premier relais sensoriel. Simplement là, j'attire votre attention sur le fait que cette entrée sensorielle est bien trop éloignée du cortex olfactif pour être vue et être décodé en quelque sorte. Donc dans un premier temps, si le cerveau va savoir si l'on sent la fraise, la menthe ou le citron, il devra savoir où ont lieu ces entrées sensorielles. C'est donc le « où » qui va être ici important. Mais ensuite, ces entrées sensorielles vont activer les neurones relais, et ces neurones relais vont décharger des potentiels d'action. Et ce qui va être important dans un second lieu, c'est le moment où ces neurones relais, cellules mitrales, vont se mettre à décharger. Ce n'est plus tellement le « où vient l'événement », mais quand le neurone va décharger. Et donc ceci est à la base d'une seconde dimension, qui est la dimension temporelle de l'information. Et donc ce qui est important ici à retenir, c'est que l'olfaction est un sens synthétique, et non pas analytique. On ne cherche pas, au travers de ce premier relais, à décortiquer les éléments qui participent dans un bouquet aromatique. Le sens olfactif est en fait une double dimension temporelle. Il s'agit de savoir quand les neurones sont activés, et également spatiale, il s'agit de savoir où a lieu cette activation. Donc, ce qui est important, et vous allez maintenant l'apprécier, c'est que tous ces interneurones que j'ai ici figuré en jaune, sont appelés à être renouvelés. Et vous voyez que la nature de ces interneurones, eh bien, c'est de mettre les cellules voisines en contact. Vous voyez, par exemple, grâce à cet interneurone, la cellule bleue et la cellule jaune sont en contact. Et donc, nous allons voir que cette dimension temporelle, la formation d'assemblées synchroniques, va être dépendante de la participation de ces interneurones. En d'autres termes, avoir plus ou moins d'interneurones dans un bulbe olfactif, c'est en fait mieux discriminer, c'est-à-dire permettre à des cellules de décharger ensemble et d'envoyer un message d'autant plus cohérent que la synchronisation sera parfaite. Alors donc nous allons voir le rôle de ces interneurones avant d'apprécier la façon par laquelle ces interneurones vont être appelés à être remplacés, et nous verrons les conséquences fonctionnelles en termes de perception, de mémoire. Une chose qui est importante à dire, c'est que lorsque l'on interroge les cellules relais du bulbe olfactif, on s'aperçoit que chacune d'elles est en fait un oscillateur endogène. Cela vous rappelle aussi que les premiers rythmes électriques observés chez les mammifères, en fait, ont été observés dans le bulbe olfactif. Et la raison est la suivante, chacune de ces cellules mitrales est un propre producteur de rythme. Cela dit, vous pouvez observer que la cellule mitrale verte ici va avoir une oscillation qui n'est pas du tout en phase avec sa cellule voisine bleue. Les pics de ces oscillations ne sont pas en phase avec les pics de cellules voisines. Ce qui est important de noter, c'est que lorsque ces deux cellules voisines vont partager la même inhibition, qui est une inhibition GABAergique par cet interneurone, qui lui-même, je vous rappelle, est appelé à être remplacé, eh bien, ces deux cellules voisines vont recevoir un événement inhibiteur, et là, au miracle, les deux oscillations sont maintenant parfaitement en phase. Donc, ce qui est important ici de noter, c'est que l'inhibition dans le bulbe olfactif n'est pas une inhibition classique que l'on connaît dans les systèmes nerveux, à savoir l'inhibition étant le garde-barrière qui contrôle le niveau d'excitabilité d'un système. Ici, l'inhibition produit en fait du rythme, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre qui va faire que chacun de ces instruments va pouvoir être mis en phase et créer ainsi une symphonie, puisque ces deux cellules maintenant mitrales, voisines, partagent la même phase et donc vont pouvoir envoyer un message cohérent au cortex olfactif. Donc en quelque sorte, grâce à ces interneurones, on peut mettre en phase les cellules voisines ensemble et donner du sens à un signal sensitif. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une façon de voir cette rythmicité apparaître, eh bien, elle est montrée ici par des enregistrements de potentiel de champ. Avant la présentation d'une odeur, nous n'avons pas de rythme dans le bulbe olfactif. On présente une odeur où on stimule électriquement le nerf olfactif et l'on voit apparaître des oscillations qui témoignent simplement la mise en phase des cellules entre elles. Donc la formation d'assemblées synchroniques qui dépend de l'inhibition. Donc une autre façon de montrer que l'inhibition dans le bulbe olfactif n'est pas une inhibition classique et qu'elle permet en fait de produire du rythme. Comment le montre-t-on? Eh bien, ici, par des applications d'antagonistes, des récepteurs GABA-A, vous avez, selon un code de couleur, une oscillation qui est produite lorsqu'on stimule les afférences sensorielles dans le bulbe olfactif. Et cette oscillation que voici ici va disparaître en présence de bloqueurs des récepteurs GABA. Donc, c'est une façon de démontrer que le GABA, un transmetteur inhibiteur dans le système nerveux central, joue un rôle crucial dans la mise en phase des cellules voisines entre elles. Et cet effet est réversible puisque dès que l'on rince et on supprime l'antagoniste, on voit réapparaître les oscillations et on peut montrer que ces oscillations sont bien des oscillations induites par la stimulation de l'organe sensoriel puisque le nerf sensoriel est en fait transmetteur de libère du glutamate et en bloquant cette transmission, on n'a plus du tout d'oscillation. Donc ce ne sont pas des oscillations endogènes du système, mais ce sont des oscillations induites par les afférences sensorielles. Alors, puisque le GABA joue ce rôle crucial, puisque l'on sait que les interneurones sont appelés à être renouvelés, nous sommes intéressés à savoir d'où ces interneurones provenaient chez l'adulte. Et en collaboration avec nos collègues à San Francisco, nous avons montré que au bord des ventricules, donc chez les rongeurs, on sait maintenant que également ceci est vrai chez l'homme, au bord des ventricules existent de véritables cellules que l'on qualifie de cellules souches, car elles peuvent fournir en fait la panoplie des cellules classiques du système nerveux central, astrocytes, oligodendrocytes et neurones. Donc ce sont des cellules souches présentes au bord des ventricules qui vont produire des nouveaux neurones qui vont devoir être acheminés vers le bulbe olfactif. Comme je vous l'ai dit, cette distance est d'environ 5 mm chez le rongeur, 4 à 5 cm chez l'homme. Voici ici les détails de cette opération. Dans un premier temps, il s'agit de produire des neuroblastes, ici montrés en violet, à partir de cellules que j'ai montrées ici en vert, qui sont en fait des astrocytes. Donc ces astrocytes un peu particuliers sont capables de se dédifférencier, de donner lieu à des précurseurs qui vont ensuite se diviser très rapidement pour produire des neuroblastes. Donc ceci est la première étape de production, de prolifération à partir de cellules souches. Seconde étape, la migration de ces neuroblastes, de leur zone de naissance jusqu'au bulbe olfactif. Donc on a un courant de migration qui va permettre d'acheminer les neuroblastes ici figurés en chaîne. Puis la troisième et dernière étape va être l'étape la plus cruciale, c'est l'acheminement et l'intégration de ces nouveaux neurones dans un circuit qui est en fait mature. Donc, la première idée qui vient à l'esprit lorsqu'on étudie ces processus est de savoir si, en fait, le bulbe olfactif n'est pas simplement un organe néoténique. En d'autres termes, si ce que l'on regarde ici n'est pas simplement le reflet d'un développement qui met beaucoup plus de temps pour les autres structures que pour le bulbe olfactif que les autres structures. Si tel est le cas, les conséquences fonctionnelles pourraient être mineures. L'autre possibilité, c'est que cette neurogénèse est une fonction adaptative au cerveau adulte, et donc, dans ce cas-là, elle devrait suivre des étapes différentes. Donc nous sommes intéressés, dans un premier temps, à vérifier ce qu'il se passe au cours de l'embryogénèse, lors de la formation du bulbe olfactif. Et l'on sait que les nouveaux neurones, lorsque le bulbe olfactif est en construction durant l'embryogénèse, sont formés à partir d'une zone que l'on appelle la zone, l'éminence ganglionnaire. Et donc, ce trajet en vert ici reflète l'acheminement des neuroblastes durant l'embryogenèse, et ces neuroblastes vont devenir les interneurones du bulbe olfactif au cours donc du développement. Première chose que l'on peut observer pour un neuroblaste qui est formé à cet âge précoce, eh bien, ce sont des potentiels d'action. Puis ensuite, ce neurone va migrer. Au cours du courant de migration, il va recevoir une activité synaptique. Donc ceci nous permet de définir l'étape essentielle de l'apparition des neuroblastes en véritable transformation de neuroblastes en neurones, c'est la propriété d'émettre des potentiels d'action et ensuite, de façon conséquente, de recevoir des contacts synaptiques. Maintenant, qu'en est-il de cette séquence chez l'adulte ? Pour cela, il a fallu mettre au point une stratégie basée sur l'utilisation de vecteurs qui nous permettent de transduire des cellules souches ou des cellules en cours de division. Et puis pour cela, donc, nous injectons ces vecteurs dans la zone, dans la pouponnière en quelque sorte, dans la niche. Et l'on va attendre quelques jours pour voir apparaître bien ces points verts qui témoignent l'apparition de nouvelles cellules dans le cerveau, dans le bulbe olfactif. Chacune de ces cellules, en fait, exprime la protéine verte fluorescente, la protéine GFP, qui a été, en fait, le gène a été ici introduit dans les cellules souches. Donc maintenant, on va pouvoir interroger chacun de ces neurones en devenir et voir si l'on récapitule l'embryogenèse. À notre grande, disons, surprise, nous avons observé que chacun de ces neuroblastes qui devient un véritable neurone s'intégrait dans le réseau en recevant de nombreux contacts synaptiques. Ici, ces contacts synaptiques sont schématisés par cet aspect épineux du neurone qui témoigne en fait les contacts synaptiques. Et à notre grande surprise, eh bien, nous avons observé que chacun de ces neuroblastes ou neurones en devenir était en fait incapable d'émettre des potentiels d'action. Donc, tout se passe, et ceci est résumé sur cette diapositive, chez l'adulte, selon la façon suivante, les cellules souches produisent des neuroblastes qui vont recevoir des contacts synaptiques, contacts d'abord GABAergiques, contacts ensuite glutamatergiques, et finalement, la cellule décidera ou pas d'émettre un potentiel d'action lors d'une dernière étape ultime. Donc, en d'autres termes, les cellules nouvellement générées chez l'adulte s'intègrent dans les réseaux, sont silencieuses, c'est-à-dire qu'elles ne participent pas à l'assemblée dans laquelle ils s'insèrent. Ils n'ont pas encore la capacité d'émettre des potentiels d'action. Par contre, ils ont la capacité d'écouter, puisque ce sont des cellules qui expriment des récepteurs et qui vont donc écouter, entre guillemets, le niveau d'activité dans lequel ces neurones sont censés s'intégrer, le niveau d'activité du réseau. Par conséquent, ici, vous avez l'ouverture d'une régulation possible que j'ai qualifié d'épigénétique, c'est-à-dire que le neuroblaste va s'intégrer dans un réseau en fonction des synapses qu'il va recevoir. En d'autres termes, en fonction du degré d'activité donc de ce réseau. Donc nous allons voir maintenant la deuxième partie de cet exposé, à savoir les régulations épigénétiques. En d'autres termes, ce que nous allons chercher à faire, c'est de réduire cette activité électrique ou au contraire l'augmenter et voir les conséquences sur la maturation de ces nouveaux neurones. Alors, en matière de système sensoriel, il existe des expériences classiques qui sont pratiquement inspirées de Claude Bernard, à savoir les privations. On bloque la fonction d'un organe et on va regarder les conséquences. Ici, il s'agit de faire des privations sensorielles. On a la chance que le système olfactif ne croise pas. Par conséquent, on peut boucher une narine et avoir la conséquence immédiate sur le bulbe olfactif, qui va donc être un bulbe olfactif dont l'activité électrique va être réduite, pour pas dire bloqué, et comparer les conséquences maintenant que cela aura sur les nouveaux neurones qui vont venir s'intégrer dans le réseau, qui sera un réseau maintenu au silence. Alors pour cela, nous avons d'abord utilisé les techniques que nous avions à notre disposition, à savoir les puces ADN. Et ici, je vous montre les régulations que l'on a pu mettre en évidence par cette privation sensorielle. Ici, cette diapositive vous montre le niveau d'expression d'un messager particulier. Je reviendrai sur cette protéine ultérieurement, mais vous pouvez déjà voir que l'expression de ce messager-là est réduite dans le bulbe olfactif, dont le niveau d'activité est réduit par cette privation sensorielle par rapport au bulbe olfactif connecté à la narine ouverte. Et vous voyez que cette réduction, en fait, dépend du nombre de jours que l'on va maintenir cette narine occluse. On a donc un effet dépendant du temps. Et c'est un effet réversible puisqu'on peut ouvrir la narine 48 heures plus tard, voir que le niveau du messager est le même que celui observé pour les animaux contrôle. Alors cette protéine, on la voit maintenant ici grâce à l'immunohistochimie. Il s'agit d'une protéine de la matrice extracellulaire que l'on voit donc réduite, cette protéine dont l'expression ici est réduite, lorsqu'on a fait cette privation sensorielle par rapport au bulbe dont l'activité est encore normale. Donc, cette protéine est une protéine sécrétée dans la matrice extracellulaire, et en fait, on la retrouve donc tout autour du courant de migration dans le bulbe olfactif. Vous voyez donc en vert l'expression de cette protéine, et cette protéine est en fait présente à l'endroit où ces neuroblastes qui arrivent dans le bulbe olfactif doivent opérer un changement à 90 degrés pour effectuer ce que l'on qualifie de migration de type radial, c'est-à-dire que ces neurones sortent du courant pour venir s'insérer dans le réseau bulbaire. Et l'on retrouve cette protéine donc autour de ce courant. Il semblerait donc que cette protéine joue un rôle permissif pour acheminer les neuroblastes vers le bulbe olfactif. Donc, nous sommes interrogés pour savoir si le fait de réduire l'expression de cette protéine en bouchant la narine, cela avait des effets sur l'arrivée des nouveaux neurones. Ici, on voit chacun de ces points témoigne l'arrivée d'un nouveau neurone dans le bulbe olfactif. Nous avons ici, c'est une coupe coronale, donc au cœur du bulbe olfactif, les neurones arrivent selon cette migration horizontale et puis effectuent cette migration à 90 degrés pour venir coloniser le bulbe olfactif. Dans les conditions où nous avons bouché la narine et donc cette protéine est fortement réduite, et nous avons une diminution du nombre de neurones capables de migrer de façon radialement. Ceci donc nous permet de conclure que cette protéine est sécrétée en fonction du niveau d'activité, que plus le bulbe olfactif sera actif parce que plus il recevra d'inférences sensorielles et plus on va attirer de nouveaux neurones vers le bulbe olfactif. Vous verrez ce que cette observation entraîne en termes de comportement ultérieurement lorsque l'on soumet nos animaux dans un univers que l'on qualifie d'univers enrichi. Alors, lorsqu'on fait cette privation sensorielle, donc, je vous l'ai dit, on voit une diminution du nombre de neurones parvenus dans le bulbe olfactif. Mais cette neurogénèse n'est pas bloquée, donc certains neurones vont quand même pouvoir coloniser le bulbe olfactif qui est maintenant réduit au silence. Eh bien, regardez la conséquence que cela a pour les nouveaux neurones qui parviennent au bulbe olfactif. Ces nouveaux neurones que l'on marque ici donc avec la protéine verte ont une taille, une complexité de l'arborisation dendritique qui est réduite. Tout se passe comme si ces nouveaux neurones qui sont quand même parvenus à intégrer le bulbe olfactif manquent d'un certain facteur pour pouvoir avoir une croissance et une maturation normale. Ensuite, nous sommes interrogés pour savoir si finalement ces neurones avait également développé des contacts synaptiques. Et chacun de ces points témoigne, avec un microscope à deux photons, l'apparition des contacts synaptiques sur un neurone parvenu dans un bulbe maintenu au silence, comparé ici à un neurone parvenu dans un bulbe actif. Et peut-être que cette diapositive où on voit donc en projection témoigne mieux cette réduction du nombre de contacts. Donc non seulement les dendrites, les neurones qui parviennent, nouveaux neurones qui parviennent dans un bulbe olfactif silencieux ont tendance à moins se développer, ils contactent moins de neurones. Donc ceci vous montre la capacité d'adaptation qu'ont ces nouveaux neurones lorsqu'ils s'intègrent dans le réseau bulbaire. On s'est posé la question de savoir si c'était une propriété unique à ces nouveaux neurones, à ces neurones juvéniles, et donc nous avons également interrogé la morphologie des neurones déjà présents. Et à notre grande surprise, lorsqu'on fait cette privation sensorielle, les nouveaux neurones dans le bulbe olfactif ne sont pas remaniés, que ce soit dans leur complexité de l'arborisation dendritique ou que ce soit dans le nombre de contacts synaptiques. Donc ici, le message est le suivant, c'est simplement les nouveaux neurones parvenus dans un bulbe olfactif qui montrent cette capacité d'adaptation en fonction de l'activité du réseau dans lequel ils s'intègrent. Donc dernière partie qui est en fait la conséquence maintenant fonctionnelle de ces nouveaux neurones qui, j'espère vous avoir convaincu, apportent des propriétés uniques au réseau bulbaire puisqu'ils sont capables de s'adapter par leur taille, par leur complexité et par leur nombre en fonction du niveau dans lequel ils s'intègrent. Première observation, lorsqu'on réduit le nombre de neurones parvenus au bulbe olfactif, ici nous l'avons fait grâce à l'utilisation d'une souris transgénique, nous avons réduit la neurogénèse, nous nous rendons compte que ces animaux sont incapables maintenant d'opérer cette discrimination entre le paprika et la cannelle, alors que les animaux, dans les conditions, les animaux sauvages, eux sont capables d'opérer cette discrimination. Donc avoir moins de nouveaux neurones, c'est en fait discriminer moins. Enfin, nous avons voulu montrer que lorsque nous exposions nos animaux à un univers enrichi, eh bien, les souris produisent 80 000 nouveaux neurones dans le bulbe olfactif. Lorsqu'on soumet nos animaux à cet univers enrichi, on s'aperçoit qu'on a doublé le nombre de nouveaux neurones. Maintenant, les conséquences fonctionnelles. Sur la mémoire à court terme, les animaux standards qui ont 80 000 neurones par jour qui colonisent le bulbe olfactif ont une mémoire à court terme de l'ordre de 30 minutes. Cette mémoire est étendue à 4 heures. Et finalement, cette mémoire est non seulement étendue, mais elle est également plus robuste, puisque dans les conditions contrôle, on soumet nos animaux à un test dit d'interférence. Il s'agit de faire sentir l'animal à une odeur A, puis cet animal est soumis à une odeur B, et on demande à l'animal s'il se souvient de l'odeur A. Le fait que l'exploration soit au même niveau témoigne d'un effet de masquage, donc il y a eu oubli. Par contre, les animaux enrichis, qui ont donc, je vous rappelle, deux fois plus de nouveaux neurones, résistent à ce phénomène de masquage. Donc non seulement leur mémoire est étendue, mais elle est également plus vivace.
C'est la fin de cette séance de l'Académie des sciences sur le thème de l'olfaction et du goût. Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter au www.academie-sciences.fr, également le site de l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, au www.inra.fr. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt. Au revoir.